Bonsoir Henri Leuvenbruck, on est ravi de vous accueillir ici aux rencontres dans la belle librairie Mola dont on parlait à l'instant hors micro. Merci au public qui est dans la salle, vous faisiez remarquer à l'instant, tu faisais remarquer, on a dit qu'on est tutoyé, on dira tout à l'heure pourquoi, il y a un lien, une passion qui nous relie. Plus de femmes que d'hommes dans ce public, on va en parler par rapport aux lecteurs et aux lectrices d'Henri. Je vais partir avec des chiffres parce que tu as fait cagne hypocagne, donc je vais pas mettre beaucoup, mais au moins trois. Dans les chiffres, il y en a un, on va rappeler, c'était 1789, c'est la dernière fois qu'on t'avait vu, hein, donc tu fais pas ton âge. Et là, on va parler de 1925. Pourquoi 1925?
Eh bien, un peu à cause de 1789, en vérité. Enfin, pour deux raisons. D'abord, parce que j'avais très envie d'écrire un livre en hommage à Lovecraft, qui est l'auteur de fantastique américain, qui a un peu créé le fantastique américain moderne et qui est celui que j'ai le plus lu quand j'étais adolescent. Et il écrivait à cette époque-là. Et donc, l'univers lovecraftien est souvent associé aux années 20. Ça, c'était la première envie. Et la deuxième, c'était un peu la réponse à 1789, puisque, effectivement, je sors d'une trilogie... qui sera plus qu'une trilogie, puisque je vais en faire d'autres, mais qui se passe pendant la Révolution française, et où j'explique aux gens que cette révolution qui a été initiée par les femmes et le peuple a finalement été remportée par les hommes et les bourgeois. C'est une révolution finalement très bourgeoise et très masculine, c'est-à-dire que les personnes qui se sont battues au début, c'était plutôt les femmes et le peuple qui étaient dans la rue, qui levaient les poings, qui remplissaient les cahiers de doléances pendant les états généraux. Les nanas qui demandaient le droit au divorce, le droit de vote, le droit d'avoir leurs filles qui vont à l'école, etc., et ben elles n'ont rien eu. Et la révolution féminine, elle a commencé en 1920 pour des raisons un peu tristes, c'est-à-dire que les hommes sont morts pendant la Première Guerre mondiale et que plein de femmes se sont retrouvées sans la tutelle du papa ou du mari et sont devenues chefs de famille. Se sont retrouvés obligés de travailler et ont réussi à récupérer le pouvoir culturel. Et ça a été le vrai début pour moi de l'émancipation des femmes. Échec en 1789, Olympe de Gouges finit sur l'échafaud. Et en 1920, ça commence à marcher. C'est-à-dire que ça y est, les femmes prennent le pouvoir.
Et donc, elles prennent tellement le pouvoir, et ça nous permet de parler de l'héroïne. Est-ce que c'est l'héroïne ou une co-héroïne des disparus de Blackmore? Puisque Lorraine Chappell, elle est en 1925 et elle est franchement féministe par rapport à son métier. La première, on va en parler, hein, c'est la première à être diplômée d'une école. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce processus de création? Comment ce personnage, cette jeune femme, naît dans ton esprit et comment elle passe sur de ton esprit à l'écriture?
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière Lorraine, mais après, c'est vrai que d'abord, il y avait cette intention quand même de revenir à un personnage féminin en personnage principal, ce que j'avais pas fait depuis assez longtemps.
Il succède à Gabriel Joly,
qui lui était un homme. Donc là, j'étais content de revenir avec un personnage féminin comme personnage principal, et puis donc aussi d'avoir l'occasion d'avoir de lui prêter un discours féministe assez virulent. Parce que c'est en 1925 et aujourd'hui on est en 2023, donc presque un siècle après, et le combat est toujours toujours pas gagné. Et quand vous êtes papa, que vous avez une fille de 22 ans et que il se passe pas une journée sans qu'elle se fasse emmerder par un mec, vous dites qu'il y a encore beaucoup de boulot.
Tu parles de ton expérience, l'expérience de ta fille, clairement, qu'aujourd'hui ce combat il est encore un combat.
Je pense que les femmes ici sont d'accord que c'est toujours pas gagné, quoi. Qu'il y a eu des gros progrès quand même, mais ma maman est née dans une France où elle avait pas le droit de vote, et c'était hier, c'était pas il y a 1000 ans, quoi. C'était hier, et on a tendance à l'oublier. Donc, j'avais très envie, encore une fois, comme je l'ai fait dans beaucoup de bouquins, hein, mais de mener ce combat aux côtés des femmes, parce que je pense que c'est un combat qui ne pourra se gagner que si on le mène ensemble. Et je suis parfois un peu attristé que quand il occasionne du communautarisme, quoi. Je pense que il est grand temps que les mecs acceptent de mener ce combat avec les femmes, parce que sinon ça va durer très, très longtemps.
Si le combat il est encore d'aujourd'hui, pourquoi toi tu mets cette action en 1925 et pourquoi on l'a pas trouvé en 2020 ou 2022 avec une jeune femme, inspecteur, commissaire de police? Ça aurait été trop banal. Et toi, tu avais envie de rester dans le roman d'époque?
Non, parce que j'aurais pu, hein, mais le décalage temporel est toujours très pratique. C'est un petit peu comme, vous savez, écrire un roman fantastique dans un pays imaginaire. Il n'y a pas de meilleur moyen de parler d'aujourd'hui et de maintenant que d'utiliser un angle de vue en décalant le projecteur, c'est-à-dire en disant, vous avez vu ce qui se passait en 1925, c'est horrible. Et à la fin du livre, les gens se disent, oui, mais en fait, finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est un moyen d'aborder un sujet avec plus de recul, avec un regard un peu, avec moins d'a priori. Et puis après, il y avait aussi une raison toute simple, c'est que les années 20 me fascinent. C'est une époque culturellement passionnante, il se passe beaucoup de choses. Elles sont très mal nommées parce que c'est pas du tout les années folles, c'est les années folles pour 5% de la population, hein, qui sur les terrasses des cafés parisiens on s'amuse, mais dans le reste de l'Europe on s'amuse pas beaucoup, c'est plutôt des années assez difficiles, mais qui sont en tout cas culturellement une période charnière, fascinante. À Berlin, le Berlin des années 20 est extraordinaire, le Paris des années 20 est extraordinaire, et voilà, et on la connaît finalement assez mal, donc j'avais un peu envie de m'instruire en me documentant, et puis de vous faire partager des choses que j'ai pu apprendre sur cette époque à travers ce livre,
quoi. On va revenir sur ce travail que tu revendiques et qui est reconnu de documentation d'ailleurs pour écrire. Si on reste justement sur Lorraine Chapel, on peut dire qu'elle fait partie de ces 5% de privilégiés quand même.
Oui, avec la différence qu'elle est orpheline quand même, et que, mais bien sûr, elle fait partie, et d'ailleurs elle en a tout à fait conscience, hein, elle fait partie justement de ces 5% qui ont pu participer à cet élan libertaire des années folles. Elle adopte tous les signes distinctifs de ce mouvement libertaire, qui sont la coupe garçonne, le chapeau cloche, les petites chaussures, les machins. Voilà, et elle va sur les terrasses de café.
La moto, on en parle.
Elle vit la vie étudiante parisienne des années 20. Donc elle est, elle, pour le coup, elle est dans les années folles, mais elle est tout à fait consciente que ça ne s'adresse qu'à une partie privilégiée de la population, même si elle vient d'un milieu social très très modeste. C'est une self-made woman, comme on dit en anglais. Et voilà.
On a parlé de Berlin, de Paris, et pourtant l'action, tu la mets pas là. Tu vas dans cette île, alors tu as dit que tu aimais bien aussi créer des endroits imaginaires. Alors il est imaginaire parce qu'on a bien compris que Blackmore, on peut le chercher sur une carte, on va avoir du mal à trouver. En tout cas, pas une île, on trouvera peut-être une ville.
C'est un musicien.
Ouais, mais aussi, ça veut qu'il parle. Et en revanche, tu as créé cet espace, pourquoi et comment on choisit de créer cet espace? Pourquoi on choisit cette unité, ce lieu? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, ben, ça va être là?
Alors, créer un espace en soi, c'était encore dans la même logique d'hommage à Lovecraft, qui avait inventé sa ville d'Arkham. Il avait prêté ensuite à plein d'auteurs qui ont pu écrire des romans ou des nouvelles qui se passaient dans l'univers créé par Lovecraft. Stephen King a fait la même chose 50 ans plus tard en créant la ville de Derry. Mais à chaque fois, c'était des villes imaginaires ancrées dans le réel, c'est-à-dire ancrées dans le Maine pour Stephen King et ancrées dans la Nouvelle-Angleterre pour Lovecraft. Donc, pour continuer cette idée de clin d'œil, je me suis dit, je vais moi aussi inventer une ville, mais je vais l'ancrer dans la réalité des îles anglo-normandes. Après, pourquoi les îles anglo-normandes? Ça, c'est probablement une question à laquelle il faudrait qu'on réponde collectivement sur le divan d'un psy, mais on s'est rendu compte, Jacques Sausset, Olivier Norek, on est toute une bande de potes d'auteurs de polar, qui y a eu d'autres, il y a eu Olivier Ball, enfin, on s'est rendu compte un jour où on était à table avec 5 ou 6 auteurs de polar, qu'est-ce qui écrit en ce moment, et on s'est rendu compte qu'on écrivait tous un roman qui se passait sur une île, et on était en 2021. Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien possible. On sortait tous du confinement et on se dit, tiens, on va écrire un roman sur une île. Je pense que l'expérience du confinement, qui a été en grande partie désagréable, mais pas uniquement, parce que ça a aussi été un moment d'introspection, ça a aussi été un moment où beaucoup de gens se sont remis à jouer en famille avec leurs enfants, à jouer à des jeux de société. Donc, ça a aussi été un moment pas entièrement négatif. Je pense que ça nous a inspiré à tous ces romans de huis clos, un peu plus intimistes que la grande fresque de la Révolution française que j'étais en train de faire avant. Et voilà. Après, il y a aussi tout simplement rien ne fait autant rêver qu'une île. C'est amusant parce que dans la voiture. En venant, j'ai entendu la chanson de Laurent Voulzy, vous savez, Belle île en mer. Ça. Bon, les îles, ça fait rêver, quoi. Donc, c'est toujours un lieu formidable pour le roman. Et moi, j'avais envie d'en faire une qui fait à la fois rêver et un peu cauchemarder, quand même.
Moi, elle m'a pas fait beaucoup rêver, elle m'a fait plutôt cauchemarder. Je sais pas ce que diront nos lecteurs et lectrices tout à l'heure. Jusqu'où va le besoin quand on crée l'espace, qu'on a créé son personnage, puis on va parler du deuxième personnage qui a une particularité aussi importante. Jusqu'où va le besoin que tu as et que tu fais souvent, qui est de mélanger et de mettre plein de faits réels dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, le lecteur que je suis, il va même peut-être aller sur Google, c'est pas on va parler des GAFA tout à l'heure ou sur autre chose, il va se dire attends, mais là il est en train de me parler d'un truc qui existe ou pas. Jusqu'où justement il y a ce besoin, c'est quoi? C'est un besoin de réalité?
Oui, parce que vous savez, enfin, tu sais, mais vous savez, enfin, je peux vous tutoyer aussi. Tu sais, cher public, je vais faire Francis Lalanne. Écrivain, c'est un métier de menteur. C'est un menteur professionnel. C'est-à-dire que c'est le seul métier où on peut être payé pour mentir.
Menteur ou conteur ?
Menteur, on est des menteurs. tout menteur sait que le meilleur moyen qu'un mensonge passe, c'est de l'enrober de plein de choses vraies. Donc, quand on est dans la fiction, vous savez, il y a ce que les Anglais appellent le suspension of disbelief. Il y a un terme français que j'oublie. Alors, on dirait Jean-Claude Van Damme.
On va rappeler que tes parents étaient profs d'anglais, si
ouais,
je ne dis pas de bêtises.
Ouais, donc, voilà, j'ai vécu là-bas. Mais, bref, il y a un contrat entre le lecteur et l'auteur qui est bon. Il y a un peu de fantastique dans mon livre, mais vous acceptez qu'il y a un peu de fantastique et je vais faire tous les efforts pour que vous y croyez. Et qu'on accepte de se faire peur, comme quand papa ou maman vous racontait au bord du lit des histoires qui font peur. Et ce moment-là, si jamais il est brisé et que le lecteur, à un moment, sort de l'histoire et en disant « Non, là, c'est trop ridicule, j'arrive pas à croire que Lorraine Chappelle est capable de voler dans les airs après avoir bu du thé », et là, on brise ce contrat de lecture. Le meilleur moyen d'éviter la rupture, donc le suspension of disbelief, la rupture de la crédulité, je crois qu'on dit en français, c'est de mettre des éléments réels. Ça, c'est la première raison. Après, il y a aussi un côté totalement névrotique chez moi, c'est que j'adore apprendre des choses. Je suis curieux de nature, j'adore lire, j'adore m'élever, m'éduquer, et puis j'essaie d'en faire profiter les gens. Donc, quand j'apprends des choses, j'essaie de les mettre dans mes livres, quoi.
Sur la trilogie précédente, j'avais relu des articles où tu disais avoir bossé quasiment un an sur la documentation avant de te lancer. Sur celui-ci, est-ce qu'il y a un travail aussi de documentation aussi important ou est-ce que c'est moins nécessaire? Et est-ce que ça a été aussi en amont ou est-ce que c'est pendant qu'on écrit qu'on se dit « Tiens, je raconterai bien ça et je vais aller voir ». Et puis tu parlais du confinement. Est-ce que tu en as profité après le confinement pour aller sur ces îles anglo-saxonnes, pour aller t'immerger, sans jeu de mots, et aller chercher des vrais faits?
Bien sûr. Alors, la documentation était bien moins difficile pour Blackmore que pour ma série révolutionnaire. C'est un peu volontaire, c'est-à-dire que je sais que la série des enquêtes de Gabriel Joly, je vais en faire 7 ou 8. Et j'ai expliqué à mon...
Là, le public a le droit de dire « Ah ouais, super !» parce que
ouais, c'est... si ça leur plaît. j'ai dit à mon éditeur que, en revanche, à partir de maintenant, j'allais alterner et le faire qu'un an sur deux, parce que je sais que si je reste 8 ans enfermé dans la Révolution française, je vais finir par y couper bien plus de têtes que Robespierre. j'ai pas envie de me lasser de la Révolution. J'ai toujours, moi, pensé que le seul moyen de pas emmerder mon public, c'était d'écrire dans la joie. Et pour que je continue d'écrire dans la joie, il ne faut pas que je me lasse. Donc, j'alterne entre Révolution française et des romans unitaires comme celui-là, qui me demandent un peu moins de documentation. Voilà. Donc, on peut presque appeler ça une pause.
Sur cette pause, justement, on va y revenir. Il y a un deuxième personnage qu'on va parler. On a parlé de Lille, on a parlé de Lorraine. Et il y a un personnage, alors là, qui est un personnage haut en couleur, dans le bon sens du terme, qui est très anglais, ouais, qui est un homme qui revendique d'être gay, ce qui est aussi, je pense, important à signaler qu'on est en 1925. Ouais. Pareil, la même volonté de ta part de mettre quelqu'un en avant avec une particularité, avec un combat, c'est quoi?
Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, oui, effectivement, l'homosexualité en 1925 était bien plus pénible à vivre qu'aujourd'hui, mais c'est pareil, ça a été un long combat qui est toujours pas fini d'ailleurs. Donc j'avais un peu envie de mettre en parallèle ces deux choses-là, et surtout j'avais envie de montrer qu'on peut avoir un personnage homosexuel dont ce ne soit pas une question pendant le livre. C'est-à-dire que on sait à la page 12, parce que Lorraine est extrêmement maladroite et elle met les pieds dans le plat tout de suite, elle lui dit « Ah, mais vous êtes homosexuel ?» Il dit oui, et c'est fini. Ce qui devrait être le cas dans la vie. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus insupportable que de rester un homosexuel ou un noir ou un juif ou un franc-maçon ou un journaliste, c'est le pire, tout le temps.
Dans quel ordre on le met?
Ouais, tout le temps. C'est-à-dire que, ok, bon, ça y est, je suis homo, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Et donc, j'avais envie de faire ça dans le livre, c'est-à-dire que l'homosexualité du personnage, une fois cette page-là passée, elle n'est plus, on n'en parle plus, quoi. C'est bon, les gars, il n'y a pas besoin d'en faire un plat et de... Voilà. Et puis, il y avait un autre aspect pratique, faut l'avouer, c'est que ça enlevait toute ambiguïté de séduction et toute ambiguïté sexuelle dans le rapport entre ce couple d'enquêteurs, qui est un accélérateur, à mon avis, d'intimité, parce que quand on est en séduction, il y a toujours beaucoup de faux-semblants, on essaye de se montrer sous son meilleur jour, parfois même de tricher un peu. Voilà, eux, ils ne trichent pas. C'est deux âmes solitaires qui sont déracinées.
Ils se séduisent pourtant.
Il y a une séduction intellectuelle, voilà, mais qui est pas ambiguë et qui est pas, voilà.
Et ça, tu le gommais dès le départ.
Ouais. Je trouvais ça assez chouette. Ouais. Parce que on va pas se mentir, c'est des Mulder et Scully de 1925 en fait. Je m'en suis rendu compte après. Hein. Je vous le cache pas. C'est-à-dire que quand j'ai créé le couple de personnages, je me suis dit, mais en fait, la nana, elle est rationnelle cartésienne et l'autre, il est un peu ouvert à l'ésotérisme. Je me suis dit, en fait, c'est Mulder et Scully. Je me suis rendu compte que j'avais pas inventé grand-chose. Sauf que Mulder et Scully, il y a justement une tension dans les X-Files du début à la fin sur est-ce qu'ils vont finir par coucher ensemble ou pas, quoi. Moi, cette question-là, je l'ai virée dès le début. Pour que justement, pour pouvoir me concentrer sur la fraternité, la sororité entre ces deux âmes déracinées, parce qu'ils sont tous les deux à l'étranger, qui traversent une époque où être une femme orpheline ou être un homo, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile socialement, et qui du coup peuvent avoir ces dénominateurs communs qui les rapprochent. Voilà, parce que je vais vous faire une confidence. Moi, vous savez, dans les romans, la seule chose qui m'intéresse, c'est les humains. Le reste, en fait, c'est des boulons, des décors et du carton-pâte, quoi. La vraie chose qui me passionne dans un livre, pour moi, la qualité d'un roman en tant que lecteur, c'est ce que les personnages réussissent à m'émouvoir, quoi. Et le reste, side work, comme on dit en anglais.
Alors, il y a l'émotion que provoquent les personnages, mais l'émotion que, évidemment, tu nous racontes, et l'émotion de l'histoire qui fait qu'on a envie d'aller exactement au bout de 519 pages. Tu as parlé beaucoup de combats, de combats en 1925. Est-ce que c'est quelque chose qui, là tu parlais de tes personnages, mais c'est quelque chose qui est important justement quand tu scénarises et que tu dis bon, je vais avoir ces personnages là, je vais parler de ce combat là, ou est-ce qu'ils naissent avec les personnages, ou est-ce que le combat t'entraîne à créer le personnage pour dire voilà, là tu viens de parler de l'homosexualité en le disant très justement, on aurait pu pouvoir en parler une fois qu'on a dit qu'on était homosexuel, ou sur le féminisme de ton personnage. Qu'est-ce qui amène l'un vers l'autre? C'est le personnage qui emmène ce caractère, ou c'est le caractère qui fait que tu crées le personnage?
Écoute, je suis embêté parce que j'aimerais bien pouvoir te répondre du tac au tac, mais j'en sais rien. Je sais pas. On a le droit de répondre. Je sais pas.
Mais oui.
Je sais pas. Je sais pas trop. Tu sais, l'œuf et la poule, quoi. En gros.
C'est peut-être la question. C'est peut-être. Est-ce que tu veux qu'il y ait un message dans le livre au-delà
de
l'histoire?
Voilà. Pas consciemment. Voilà. En tout cas, pas consciemment. Après, je me vois pas écrire un livre dans lequel il y a pas une part de volonté de transmission de ce en quoi je crois, quoi. Je suis quelqu'un qui essaye d'être le moins souvent possible en dissonance cognitive, comme on dit, c'est-à-dire j'essaie toujours d'être un peu d'appliquer dans ma vie les valeurs voilà, qui sont fluctuantes. Hein, mes valeurs évoluent. J'ai 26 ans. En 26 ans, elles ont beaucoup évolué.
Mes depuis valeurs, 30 ans.
30, pardon. non, voilà. Donc il y a forcément toujours un peu du sous-texte dans mes romans. Je ne me vois pas écrire un roman dans lequel ne transparaissent pas mes valeurs, ma vision du monde. Mais ce n'est pas de manière très consciente, en tout cas. C'est jamais, je ne me dis pas, tiens, je vais écrire un livre sur cette cause-là. Voilà. Peut-être un petit peu avec la Révolution, quand même, sur celui de Gabriel Joly. Encore que j'y aborde des sujets assez différents. Mais,
même avant, je vais chercher un extrait dans Les cathédrales du vide, 2009. Quelques années, hein.
Ouais.
La presse ne parlait que de cela. Le prix du baril d'or noir battait de nouveaux records. Et il y avait une autre phrase, c'était encore un été de canicule, un signe de plus, comme une nouvelle grimace que la planète s'adressait à la négligence de ses occupants arrogants. Waouh, il y a du combat là.
Ouais, c'est marrant ça. J'ai écrit ça en 2009.
Bah, à moins que tu aies antidaté le.
Non, non, t'as raison. Écoute, ça me fait plaisir parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir une prise de conscience climatique seulement depuis un an ou deux.
Bah,
et
ou alors.
Je suis en train de me révéler que ça fait plus longtemps que ça.
Ouais, tout à fait.
Donc, je suis ravi.
Et je reviens à ça justement. Donc là, tu viens de me dire, c'est un peu spontané, mais il y a quand même une volonté quand même de faire partager aussi aux lecteurs des convictions, des forces qui font que peut-être l'humain serait meilleur demain si on se comportait comme tes héros ou comme les gens qui parlent dans tes livres. Il y a ça quand même. Tu as cette volonté de te dire, je peux faire passer un message, ou est-ce que tu dis ça?
Oui, non, j'ai quand même une tendance prosélytique qui n'est pas toujours une qualité d'ailleurs. Hein. Je peux être assez chiant pendant un dîner de famille, par exemple, ou pendant des grandes causes nationales défendues. Voilà. Oui, j'ai ce défaut de... Ma maman me disait que je finirais avocat. Bon, elle s'est trompée. Mais je vois très bien pourquoi elle disait ça. C'est-à-dire que j'ai la fâcheuse tendance à embrasser des causes que j'ai envie de défendre, parfois un peu trop bruyamment. Dans les livres, j'essaie d'être un peu plus discret qu'à table.
Alors, dans le livre, ça y est pas, parce que ça n'existait pas. Il y a une cause que tu as embrassée il n'y a pas longtemps, c'est qu'elle le dit. Tu t'es enlevé volontairement et tu l'as fait savoir de certains réseaux sociaux, dont Facebook, où tu étais quand même très présent.
Ouais.
Au-delà de ton activité d'auteur, et c'est le fait qu'on se tutoie un peu, tu as une passion pour la moto que je partage, et je te suivais en tant que motard. Tu as coupé, et ça, j'aimerais bien que tu nous l'expliques, parce qu'on sort un peu du cadre du livre, on va revenir, mais ça, ils ne pouvaient pas en parler, nos amis, parce qu'en 1925, Facebook n'était pas encore là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis « je coupe » alors que tu as un métier très public ?
Beaucoup de choses. La première, c'est d'abord, j'étais un peu fatigué par cette caisse de résonance et vos idées nauséabondes qui nous donnent l'impression que beaucoup de gens les partagent, alors que finalement, c'est un prisme qui fausse la réalité. Il y a quand même il y a beaucoup trop de fachos sur Terre, mais beaucoup moins qu'on le croit quand on va sur Twitter. Ça, c'était la première chose. Après, si ça n'avait été que ça, je me serais retiré de tous les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai rejoint un réseau social libre qui s'appelle Mastodon.
Parle-nous-en un peu, parce que moi, je l'ai découvert grâce à toi.
Là, la raison, elle est tout simplement sur le danger que je vois dans le siphonnage de nos données personnelles sur Internet. C'est-à-dire que ça fait maintenant 20 ans à peu près que Google, le premier, a eu une idée de génie, c'est-à-dire de nous faire croire qu'il allait nous donner des outils gratuits. Et on se dit, mais c'est génial, on a des mails gratuits, on a un moteur de recherche gratuit, on a des réseaux sociaux gratuits. Voilà. Bon, vous connaissez la fameuse phrase, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, cette phrase, elle n'est pas bien parce que les gens, ils s'en foutent d'être un produit. Ils se disent, oui, OK, on me vend à des publicitaires, c'est pas grave. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça parce que cette accumulation qu'on appelle le big data de données personnelles sur chacun d'entre nous, elle grossit, ça devient monstrueux. Aujourd'hui, les serveurs hébergés privés de Google sur chacun d'entre nous, quasiment, pour peu qu'on ait un compte, un mail chez Gmail, pour peu qu'on ait Facebook, pour peu qu'on ait ces horribles appareils à la maison, là, les Google Home, pour peu qu'on ait Siri sur son téléphone.
T'as pas tout ça alors, hein.
Je n'ai plus tout ça, j'avais tout ça. C'est à quelle heure vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, pour qui vous votez, à quelle heure vous faites l'amour, est-ce que vous faites l'amour avec un homme ou avec une femme, est-ce que vous aimez voyager, est-ce que vous avez une voiture. Ils savent tout. C'est-à-dire que la CIA et la NSA sont jaloux, ils essayent de pirater les serveurs de Google parce qu'ils disent mais c'est pas possible d'avoir autant d'informations sur les gens. Le problème, c'est qu'il est fort probable qu'un jour ça tombe dans de mauvaises mains. C'est un peu le cas sur Twitter où c'est quand même tomber un peu dans de mauvaises mains, mais ça pourrait être pire. Et le jour où ça tombe dans de très très mauvaises mains, on est mal, vraiment. Il y a un vrai vrai danger, quoi, que dont personne n'a conscience. Bon, après, il y a aussi, moi, je trouve un enjeu économique qui me choque, c'est-à-dire que ces entreprises sont aujourd'hui les entreprises qui ont le plus fructifié dans la planète, que ce soit Google, Amazon, Facebook, Meta, etc., qui accumulent des sommes faramineuses en ne produisant rien, si ce n'est en vendant à des publicitaires des informations sur ma vie privée. Et ça me choque, d'autant plus que ces sociétés grossissent, rachètent tout le monde, acceptent parfois de perdre de l'argent pendant 3 ou 4 ans pour écraser la concurrence et être les derniers à survivre. Et je pense qu'il est temps qu'on dise « faut que ça s'arrête ». Et ça s'arrêtera pas tant qu'on n'arrêtera pas tous. Vous savez, il y a une phrase de Coluche qui était géniale, il disait « et dire qu'il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça se vende plus ». Ben, il suffirait qu'on se barre tous de Facebook, de Google et de Twitter pour que ce truc dont on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est malsain, mais la grande majorité d'entre nous l'accepte, dit oui, c'est pas malsain, mais bon, c'est pratique quand même. Et quand moi je suis parti de Facebook où j'avais 19 000 abonnés, je peux dire que j'avais les boules. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu te supprimes la possibilité de communiquer avec 19 000 de tes lecteurs, mais t'es fou. Et en hésitant, je me suis dit, mais c'est encore pire. Ça veut dire qu'en gros, j'ai peur de le faire. Donc, ça a pris une place tellement grande dans ma vie. Le fait que j'ai peur de quitter Facebook, ça prouve qu'il faut vraiment que je m'en aille parce que c'est une nouvelle cocaïne, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'en débarrasser. C'est devenu une accoutumance de fou, au point que j'ai été terrifié à l'idée de fermer mon compte Facebook. Et bien, j'ai fini par le faire et regardez, je me porte bien, j'ai pris 3 kilos depuis.
Bah ça, c'est peut-être pas une façon de séduire les lectrices qui nous écoutent. Alors, et les lecteurs, pardon.
Bien
puisqu'on est tous un peu quand même dépendants de ça, et on va finir sur ce chapitre-là, mais c'est intéressant. Comment toi, qui en plus te présentais tout à l'heure comme curieux, qui fait un gros travail de recherche, etc., aujourd'hui, tu googlises plus rien, pour prendre un vilain mot. D'ailleurs, je vous invite à lire dans la Google du loup, qui date un peu, mais qui raconte une...
Non, je vais sur DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche respectueux de nos données personnelles.
D'accord.
Qui est en open source, etc. Et quand vous allez dessus, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, les données, il n'y aura pas de cookies qui enregistrent où vous êtes allé, etc. Bon, après, on n'est pas obligé d'être des extrémistes comme moi. Moi, je suis un fou furieux, c'est-à-dire que sur mon téléphone, il n'y a plus rien de tout ça. J'ai un VPN, j'ai un filtre DNS qui empêche. Voilà. Bon, je suis un peu extrémiste, mais parce que je pense qu'il y a besoin... quand j'essaie d'en parler à mes enfants ou à ma compagne ou à mes parents, je leur montre jusqu'où on peut aller et j'espère qu'ils vont faire un tout petit peu de ce que j'ai fait. Mais vous savez, déjà, le plus simple, quand même... Alors, il y a des gens qui disent, mais comment on fait pour comment vous avez fait pour fermer votre compte Facebook? Ben, je l'ai fermé.
Oui, ben...
C'est pas très compliqué, en fait. Vous savez, c'est comme arrêter de fumer. Hein. Ouais. Comment t'as fait pour arrêter de fumer? Ben, j'ai arrêté de fumer.
Mais c'est pas simple d'arrêter de fumer.
Ben non, mais si, en fait, si, je suis d'arrêter de fumer, en fait.
Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ça, ça pourrait être un sujet de livre ou est-ce que tu dis non, non, là, ça c'est un combat, je ne vais pas le raconter et... Ou est-ce que ça pourrait être demain un sujet de livre?
Si, si, malheureusement, oui.
Alors, vas-y, raconte-le.
Oui, c'est le sujet d'un livre que je suis en train de préparer, ouais.
Qui va être très contemporain ou que tu vas faire comme dans d'autres, tu vas faire un parallèle avec des époques ou...
Ça va être atemporel. Alors, on est sur un scoop, ok? Vous pourrez dire, je l'ai entendu à Mola.
Ça tombe bien, on l'enregistre, mais ça reste entre nous. Voilà.
Ça va être la suite de nos révisions juste de liberté.
Ah.
Et ça va s'appeler « Et nous voulions tuer Goliath ».
D'accord, ok. Allez, donne-nous une date de sortie potentielle.
Une entreprise qui commence par un grand G. Voilà, donc « Nous voulions tuer Goliath » parce que je pense qu'on est des petits David et qu'il faut qu'on ait confiance en notre possibilité de un jour battre ces géants qui sont en train de bouffer la planète, quoi.
Voilà. Ça va être aussi autobiographique que
non,
ce qu'on a lu
ouais, un peu.
Ouais.
Enfin, ouais.
Tu nous donnes une date de sortie ou un scoop suffit par jour?
Eh bien, 2024.
Très bien. Ben, écoute, voilà, c'est super. Très bien. Tout à l'heure, tu as parlé de la trilogie, qui ne va pas être une trilogie. Il y en aura d'autres, donc on comprend que tu es en train d'écrire énormément. Est-ce que ces deux héros qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, grâce à toi plus encore, avec les disparus de Blackmore, qui se lit très vite, faut dire, moi j'adorais, quand je dis très vite, c'est qu'on a envie de le lire vite. J'ai avancé un peu de façon comme un octambule dans cette histoire. Est-ce qu'on va les retrouver, ce couple de héros, ou est-ce que tu n'en es pas là et tu ne sais pas?
J'aurais dit non au début, parce que c'était dans ma tête vraiment un roman unitaire, voilà. Après, je me suis beaucoup attaché à... Alors, je sais, la dernière fois que je l'ai dit, je me suis rendu compte que c'était bizarre de dire ça. Je me suis attaché à Lorraine, énormément.
C'est Tiffany qui doit être contente.
Oui. c'est bizarre de dire ça parce que c'est moi qui l'ai créée, donc je la connais. Mais en réalité, elle m'a surpris. Elle m'a fait rire. Et ça arrive, c'est des moments extraordinaires pour un auteur quand vous êtes en train d'écrire un livre. Alors, surtout un auteur comme moi... qui prépare énormément ses romans et qui a des plans très précis, normalement, il n'y a plus de place pour la surprise. Et ça m'arrive d'être surpris par des personnages, parce que dans le fil de l'écriture, dans le fil d'un dialogue et d'une conversation, je me mets à les laisser parler plus que ce que j'avais prévu. Et puis, eh ben, Lorraine, elle m'a fait rire, vraiment.
Ce qui est marrant, c'est que tu parles de ton personnage comme un lecteur en parlerait, sauf que ouais. T'en es l'auteur.
Ouais, c'est ça qui est bizarre, j'avoue. Il y a un côté un peu dédoublement de personnalité, mais en tout cas, elle m'a fait rire. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce personnage. Elle est allée plus loin que ce que j'avais prévu. Voilà, je te le disais, je prépare énormément mes romans, je me documente énormément. Et dans ma tête, il y a un exemple, tu vois, où, quand tu parlais du moment de la documentation, dans le roman, dans les premières pages, donc je gâche pas grand-chose, elle dit qu'elle a la maladie de Pic.
Oui, tout à fait.
Dont le symptôme est de lui enlever toute inhibition, et donc elle parle aux gens sans filtre.
C'est comme ça qu'a dit à son compagnon, t'es homosexuel, ça se voit. Voilà.
Elle parle sans filtre, elle dit ce qui lui passe par la tête. Et en réalité, ça, je l'avais pas prévu. J'avais prévu qu'elle n'ait pas d'inhibition et qu'elle soit très franche. Et je me suis dit, ça serait rigolo si en fait il y avait une maladie derrière ça. C'est pas vrai en fait. Hein. Au fur et à mesure du roman, on comprend que c'est pas vrai. Elle a pas cette maladie. Elle utilise la maladie comme excuse. Je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas une maladie qui fait que les gens ils disent tout ce qu'ils pensent? J'ai cherché et c'était dans le cours d'écriture et j'ai découvert qu'il y avait une maladie, la maladie de Pic, dont l'un des symptômes, c'est pas une maladie rigolote. Hein. Mais dont l'un des symptômes sur certains patients peut être ça, c'est-à-dire c'est des gens à table qui vous disent ah t'es moche ou voilà ah j'ai pas du tout aimé votre livre. Vous voyez les gens qui mettent ça, je sais qu'ils ont la maladie. Quoi? Pourquoi vous riez? Voilà, donc j'ai découvert qu'il y avait une maladie qui enlevait une grosse partie de l'inhibition parce que dans cette partie du cerveau qui nous permet d'être conscient que la phrase qu'on va dire risque de nous mettre socialement mal à l'aise. Ils ne l'ont pas. Et donc, moi, j'adore. Et ça donne un personnage qui est pétillant, qui est rigolo, qui provoque des malaises. Et c'est toujours drôle, le malaise, dans un roman.
Donc, on va la retrouver.
Il y a des chances.
Dans les choses que tu as accompagnées, tout à l'heure, je parlais, tu viens d'en parler, que ça m'a dit Pic, que j'avais d'ailleurs noté, en me disant, voilà, encore un mélange de vrai avec de la fantaisie. Il y a une histoire incroyable que j'ai découverte grâce à ce livre, qui est l'histoire de cette colonie. Ouais. Totalement disparu, colonie de Roanoke. Mm. C'est quelque chose que tu avais découvert avant le livre ou que tu découvres via le livre. Raconte-nous un peu ce cheminement. Parce qu'en plus, c'est pas au même endroit.
Hein. Ouais, c'est une chose qui est assez connue. Alors, il s'est passé un truc très drôle, c'est que entre le moment où j'ai commencé le livre et le moment où je l'ai terminé, on a trouvé la colonie dans un
autre. J'ai vu.
Voilà. Et je suis très si emmerdé. Alors, je me suis dit, j'espère que je vais pas avoir des lecteurs comme Stéphane qui vont regarder sur Internet. C'est un mystère qui date depuis le 15e siècle, quand même. Ouais. Et qu'on a résolu il y a 6 mois.
Ouais,
donc ça m'emmerde parce que j'aurais bien aimé qu'il soit encore mystérieux. Mais il y a effectivement des colons au large de la Caroline du Nord sur une petite île qui se sont installés. Et au bout de quelques mois, ils sont arrivés au bout des ressources de la petite île en question. Et donc le navigateur mouvant, Christophe Colomb, décide de retourner seul en Angleterre pour aller chercher des vivres à bord d'un bateau. Et quand il revient, il n'y a plus personne. Le petit village qu'ils ont construit est dans le même état. Il n'y a rien qui est abîmé, il n'y a pas eu de bagarre, il y a pas personne ne les a attaqués et il n'y a plus personne. Et on les a jamais retrouvés, les gens qui étaient là. Et il y a juste un mot gravé sur une planche à l'entrée de la ville avec marqué Croatoan. Mmh. Donc c'est quand même un sujet de livre génial. C'est-à-dire que voilà. Et figurez-vous que depuis, on a trouvé ce qu'ils sont devenus. Mmh.
On va inviter ceux qui n'ont pas encore découvert
ça, mais on va leur laisser faire. Lisez le livre avant d'aller chercher la vraie réponse, parce que moi, j'en invente une qui n'est pas la vraie.
Non, mais c'est une histoire invraisemblable, que la vérité se croise avec ton livre. Enfin, que la découverte de la vérité se croise avec ton livre. Il y a une autre chose qu'on découvre dans ce livre, et là, on dévoile absolument pas le suspense, on peut en parler librement. J'aimerais bien que tu nous parles de Georges de Puvenel, qui est un abbé dans le livre, qui a un clin d'œil, et on découvre à la fin du bouquin, qui est plus suspense, une vraie histoire. J'aimerais bien que tu nous parles de ce personnage, pas de l'abbé, du vrai
Puvenel.
Ouais.
Ce roman finit par une postface qui clôt un peu un cycle dans lequel je suis rentré depuis quelques années, qui est un cycle d'hommage à la littérature populaire et qui, je pense, m'a été énormément inspiré par mon grand-oncle Pierre Levenbruck, donc au sujet duquel j'ai écrit cette postface qui s'appelle L'oncle Pierre. Et Pierre Levenbruck, c'était l'oncle de mon papa, donc mon grand-oncle à moi, qui est mort.
Fais le lien tout de suite avec Georges de Puvenel, parce que tout le monde ne va pas comprendre.
C'était l'un des pseudos de Pierre Levenbruck, c'est-à-dire que c'était un auteur, il était consul de France, c'était un type un peu à la Kessel, ce genre de type, c'est-à-dire qu'il menait, ou Romain Gary, c'est-à-dire qu'il menait à la fois une vie diplomatique très riche, donc lui, consul de France, et à côté, une vie parallèle d'écrivain de littérature populaire sous pseudonyme, parce qu'il fallait surtout pas que ça sache, il publiait chez Talandier. Et entre les années 20 et les années 40, il a publié plus de 100 romans.
C'est énorme.
Qui n'ont pas tous très très bien vieilli, mais qui sont la pure littérature populaire d'aventure feuilletonnante du
début. En quoi ça t'inspire ? Ouais, en quoi ça t'a tracé une partie de ta voix ?
Ça m'a forgé, moi, je crois. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, je voyais ces couvertures qui étaient géniales, peintes à la main, où on voyait des aventuriers, des avions, le désert, des îles... Et je suis rentré dans la littérature à travers cette littérature-là, à travers Dumas, à travers Jules Verne, à travers Leroux, Leblanc,
Paul Féval. Tu vas pas nous citer Umberto Eco quand tu dis ça.
C'est venu beaucoup plus tard,
c'est
ça.
Plus tard.
Mais ouais, moi, la vraie découverte de littérature, c'était le roman d'aventure du 19e et le roman feuilleton du début du 20e, etc. Et j'ai toujours le sentiment aujourd'hui d'avoir une dette envers ces gens.
Donc, et cet oncle en particulier, ce grand oncle en particulier.
Ce grand oncle en particulier. Et donc j'ai l'impression de leur rendre hommage depuis Gabriel Joly, qui est le cycle de Gabriel Joly est un hommage direct à Dumas, à Gaston Leroux. Il y a du fantôme de l'opéra dans le dernier tome de Gabriel Joly qui s'appelle L'assassin de la rue Voltaire. Enfin bref, voilà. Et je pense le conclure cet hommage par cette postface adressée à l'oncle Pierre. C'est un personnage étonnant, résistant. Il a fait partie des services secrets. Ça a été un vrai résistant, pas un résistant de la dernière heure, un résistant qui a fini chopé par la Gestapo et qui dirigeait l'un des maquis autour près de Lyon. Enfin voilà, donc un type avec une vie comme on ne peut plus en avoir aujourd'hui parce que maintenant on a la télé et Google. Mais à l'époque,
ils n'avaient plus Google.
À la télé, à l'époque, ils avaient le temps et ils passaient pas leur temps à regarder. Les réponses à leurs posts sur Facebook, quoi. Donc, ils avaient des vies super plus riches que les nôtres. Ces gens-là, un type comme Romain Gary, la vie de Romain Gary. Moi, je connais personne aujourd'hui qui a une vie comme celle de Romain Gary ou comme celle de Pierre Levenbruck. C'était des vies, les mecs voyageaient. Alors, et puis, quand on voyageait, ça va revenir d'ailleurs. Ça nous pend en nez. Mais à l'époque, quand on allait aux États-Unis, on mettait pas 5 heures, on mettait plusieurs jours.
Qu'est-ce qui nous pend en nez ?
Ah ben, bah, l'avion, c'est bientôt fini, dans 30 ans.
Tu fais partie de ceux qui ne prennent plus l'avion aujourd'hui ?
Ouais, depuis 3 semaines, j'ai fait mon dernier voyage. Non, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que je suis parti avec ma compagne, on a décidé de partir en vacances pour la dernière fois en avion, en disant, voilà, on a fait notre bilan carbone annuel. On sait qu'aujourd'hui, d'ici 2050, il faut tout ce qu'on passe de 10 tonnes par an à 2 tonnes si on veut pas que la planète se prenne encore 2 degrés dans la gueule. Et un voyage en avion, c'est 1,5 tonne. C'est-à-dire, c'est déjà 75% de ce qu'on peut consommer dans l'année par personne, quoi. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrête l'avion. Voilà. Il vaut mieux qu'on l'arrête de notre plein gré plutôt que forcer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on s'habitue à vivre sans avion et que peut-être on se mette à reprendre le bateau, quoi. Finalement, c'est sympa, le bateau. C'est sympa de mettre du temps pour aller à l'étranger. On a oublié ça. On a oublié les magnifiques romans d'Agatha Christie qui se passaient à bord de l'Orient Express ou à bord d'un bateau sur le Nil. On a oublié que finalement le voyage fait partie du plaisir des vacances. Et donc, et voilà, je t'avoue que quand on est reparti de ces petites Caraïbes, qu'on est monté dans l'avion, on avait un peu la gorge serrée parce qu'on s'est dit, bah, c'est la dernière fois qu'on prend l'avion. Ça fait bizarre. Mais les gars, j'ai bien peur que nos enfants n'auront pas le choix, eux. Donc il faut qu'on s'y mette.
Est-ce que tu le fais par conviction forte ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ressentent une éco-anxiété ou est-ce que tu partages
cette Non, malheureusement, j'aimerais bien que ce soit que de l'anxiété, mais aujourd'hui, je crois que ça y est. Enfin, il suffit d'avoir un tout petit peu de curiosité pour voir que c'est plus de l'alarmisme d'apôtre de l'apocalypse, quoi. Ça y est, c'est un fait scientifique. On le sait, là, la planète, si on fait absolument rien, elle prend un petit degré. Et si on veut qu'elle n'en prenne que 2, il faut qu'on passe, nous, les Français, on est à 10 tonnes par an, il faut qu'on passe à 2 tonnes. Et pour passer à 2 tonnes, bah, y a, de toute façon, pas de miracle, quoi. Voilà. Alors, c'est malheureux, c'est un peu triste, mais on peut, après, on passe à travers... Quand on a cette prise de conscience-là, on passe à travers les phases du deuil, hein, qui sont bien connues. C'est au début le déni. Mais non, c'est bon, la planète, ça va aller. De toute façon, on va trouver une autre forme d'énergie qui la remplacera, ce qui est faux, on le sait. Hein, depuis, vous savez que la transition énergétique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que depuis que l'énergie existe, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle énergie, elle remplace pas la précédente. On consomme autant, voire non, on consomme pas autant, on consomme plus de charbon et de bois aujourd'hui qu'au 19e siècle. Donc l'électricité a pas remplacé le bois et le charbon, elle s'est ajoutée au bois et au charbon. Le nucléaire s'est ajouté. Donc si demain l'hydrogène qu'on nous promet tous marche, ok, mais ça ne remplacera pas les autres, ça s'ajoutera aux autres. Il y a pas de transition énergétique. Donc voilà, cette vérité-là, il faut avoir le courage d'aller la voir. Ça fait mal, ça met une grosse claque au début, et après, à la fin de la courbe du deuil, là, quand on en arrive à l'acceptation, et ben, de l'acceptation, vous passez à l'action et dire, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai des gamins. Est-ce que je continue de prendre l'avion? Si je peux prendre le bateau, est-ce que vraiment c'est un sacrifice immense? Et voilà, et que c'est un choix. Après, surtout, moi, je suis pas du tout dans la culpabilisation parce que. J'ai d'abord, je suis très mal placé pour le faire. Je suis motard.
Ouais, j'allais en parler. J'ai est-ce que c'est plus prendre l'avion pour plus se mettre de super dans la Harley, quoi.
Non, mais là, je vais passer à la moto électrique, quoi. Ça, c'est une certitude dans les mois ou années qui viennent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news. Moi, je vous invite. Il y a un site qui est extraordinaire, qui est très bien fait, qui s'appelle Bon Pote, où un type recueille beaucoup de publications scientifiques dans lesquelles il explique qu'il faut se méfier de toutes les fake news qu'il y a en ce moment autour de, finalement, une voiture électrique, ça pollue autant qu'une voiture thermique. C'est pas vrai. C'est la moins pire des solutions.
Il y a encore un gros débat sur leur cyclage et batterie.
Ouais, mais en fait, c'est pas vrai, ça.
Ah bon,
ouais. On en parlera. C'est-à-dire que sur tout le cycle de vie de la fabrication d'une voiture électrique, elle pollue beaucoup. Ouais. Mais elle pollue 5 fois moins que tout le cycle de vie. C'est-à-dire, le cycle de vie, c'est de la fabrication jusqu'à la casse. Et si on calcule le bilan carbone et surtout l'utilisation des ressources naturelles, si on prend tout ce cycle-là, du début à la fin de la vie d'une voiture thermique ou d'une voiture électrique, la voiture électrique, c'est 5 fois moins.
Je crois qu'on va entendre parler de ça ou on va lire ça dans Nous voulons tuer Goliath.
Mais on n'a pas le choix. De toute façon, vous savez qu'en 2035, c'est pareil. Hein, quand moi, c'est pas, il n'y a pas du tout d'aspect moral derrière parce que je suis très mal placé pour le faire. J'ai un bilan carbone pourri, moi. Donc, je fais partie de ce siècle qui a pourri la planète sans s'en rendre compte parce qu'on a été élevé là-dedans et que voilà. Mais c'est simplement qu'on n'a pas le choix. En 2035, là, c'est une loi, une règle. On sait qu'on ne fera plus de voitures. C'est un règlement. C'est une loi.
Les Allemands sont en train de se battre pour le faire sauter. Mais
2035, on n'en fabriquera plus. Et est-ce qu'on veut, jusqu'en décembre 2034, se dire « c'est pas grave » et puis en janvier 2035, dire « oh mince, comment on fait ?» Moi, je préfère me préparer avant et que cette transition de notre mode de vie se fasse plus progressivement, quoi, que je sois prêt. Mmh. Je sais qu'en 2050, il n'y a plus de fer, de cobalt dans les mines qu'on pille dans les sous-sols de l'Afrique depuis des générations, quoi. Donc il faut faire qu'on s'y prépare et que nos gamins sachent qu'eux, ils n'auront pas de coltan. Il n'y en aura plus.
Allez, une dernière question sur une...
C'est pas super joyeux. Alors, mon livre est
justement,
super drôle. Hein.
Non, mais justement, on va finir sur chose de plus heureux. Une autre passion. On a failli te connaître musicien. On te connaît musicien. T'en ouais. es-vous par rapport à ça? Tu avais parlé d'une comédie musicale. On voit que dans les remerciements, comme souvent dans celui-ci, si on lit bien les remerciements, il y a un petit mot pour Renaud,
ouais.
qui fait un beau retour sur scène. D'abord, ouais. un petit mot sur lui. Est-ce que ton ami te rassure?
Alors lui, il a été conscient bien plus tôt que moi hein, sur ces sujets-là. Mais voilà, bah, écoute, Renaud, il va bien. Il s'est acheté une maison à Nantes parce qu'il est tombé amoureux d'une Nantaise.
Donc il a quitté le surfeur.
Voilà. Alors non, il va toujours, mais voilà.
C'est pas la question que je voulais poser, mais est-ce qu'il te rassure? Est-ce que tu es heureux de le voir venir et parle-nous de musique par
bien
rapport
sûr.
À ton actualité?
Ouais, ouais. J'en fais beaucoup moins de la musique. Alors j'en ai fait pour le livre, d'ailleurs. J'ai fait un peu de musique pour la bande-annonce du livre.
Que je vous conseille, d'ailleurs.
Ouais,
qu'on peut
gentil.
Trouver. Ouais, qui est très sympa.
Il y a un clin d'œil dedans qu'on peut comprendre que quand on a fini le livre, dans la mélodie, je dis rien. Mais non, j'en fais beaucoup moins qu'avant.
Il y a deux choses à
sûr.
Trouver, l'abbé et la mélodie.
Ouais. j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je joue plus sur scène, j'ai plus le temps. Voilà, mais je continue de jouer chez moi. Et c'est toujours un grand plaisir.
Est-ce qu'il y a toujours un projet d'écriture entre la ouais. musique et... Ah, alors...
Parce qu'on oui, a... oui, je continue d'adapter Nous rêvions juste de liberté en comédie musicale, mais c'est un projet qui va me prendre encore 7 ou 8 ans, donc ça fait déjà 3 ans que j'y suis. Je m'étais dit, j'en ai pour 10 ans, donc... sachant que la comédie musicale, pour moi, c'est l'art ultime, c'est le mélange de l'instantanéité de la création. Quand vous êtes écrivain, ce qui est un peu frustrant, c'est que les gens, à part dans le métro, en de rares occasions, vous ne les voyez pas lire vos livres. Vous n'êtes pas là au moment où les gens reçoivent votre travail. La musique, ce qui est extraordinaire.
Quand la c'est dédicace une... sert à ça, quand même.
Ouais,
c'est... Oui, c'est mais... C'est pas toujours un bon moment
c'est
d'échange.
C'est un échange qui vient après.
Ouais.
Ce qui est extraordinaire avec la musique, moi qui ai beaucoup joué sur scène, c'est que le public est là au moment de la création. Et donc, il y a un partage que tu n'as jamais en littérature.
Moi, faire des lectures publiques, alors.
Et encore, parce que tu crées pas quand tu ouais. lis, vraiment, tu vois. Moi, les plus grands moments de partage et d'émotion, ça a été sur scène avec la musique. Et ce qui est extraordinaire avec la comédie musicale, c'est que ça mélange ce plaisir-là à celui de l'écriture, puisqu'il y a quand même une histoire qu'on raconte, et à celui du théâtre, puisqu'il y a des comédiens sur scène. Enfin, voilà, ça mélange un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire les musiciens sur scène, les comédiens sur scène, le théâtre, bon... Donc pour moi, c'est l'art ultime et ça fait depuis 30 ans que je rêve d'écrire une comédie musicale.
Je suis... On ne fixe pas de date, là, comme on a fait tout à l'heure pour le prochain
ouvrage. Je m'étais dit 10 ans, donc encore 7.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Bon, ok. Joli programme.
Je m'étais dit rendez-vous.
C'est ça.
Mais voilà, je suis un grand amateur de comédie musicale. C'est, voilà, je suis très, très fleur bleue. J'adore les demoiselles de Rochefort, par exemple, qui me
m'émeut. On n'est pas loin d'ici, ouais. comme son nom l'indique.
Et mes enfants connaissent par cœur les paroles de Starmania, des Demoiselles de Rochefort.
Tellement tu les as écoutés avec eux.
Du Fantôme de l'Opéra, de West Side Story, etc.
Bon, alors moi, je ne dis pas qu'on va connaître par cœur le texte, je le rappelle, c'est un ouvrage assez épais et qu'on parcourt avec beaucoup d'appétit. Je salue en tout cas Disparu du Blackmore. Merci, Henri, de cette
merci
rencontre.
À toi.
Merci au public, merci à la librairie Rémola pour ce rendez-vous qui est toujours, toujours joyeux. On a parlé de choses. On se donne rendez-vous pour 2 ouvrages au moins et puis pour la comédie musicale.
Avec grand plaisir.
À très vite.